Nous voici rassemblés dans notre commune humanité et chacun dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Notre présence suffit, que nous soyons dans le temple ou à distance par le moyen des réseaux sociaux. Chacun, chacune est accueillie dans ce temps, dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ appelle notre Père. Laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés par ton appel. Nous voici réunis, habitués ou nouveaux venus, venus de près ou de loin, le cœur joyeux ou assombri, chercheurs et questionneurs. Tous et toutes, nous avons besoin que nos existences soient nourries, abreuvées, réveillées. Que ton esprit nous ranime, nous anime, maintenant et chaque jour. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Valentin va nous conduire, une louange inspirée du psaume 100.
Loué sois-tu, Dieu, toi qui travailles dans le monde comme une semence cachée qui chaque fois repousse. Donne-nous de te voir à l'œuvre dans les paroles qui délivrent, dans les gestes qui portent du fruit. Loué sois-tu, toi qui nous rassembles aujourd'hui. Toi qui aiguises notre regard devant tes merveilles sans nom. Tu vois les temps d'incertitude et de larmes que nous vivons parfois, les temps d'égarement qui nous font perdre pied, les temps de lassitude qui nous font ployer l'échine. Ravive en nous ce matin le souffle nouveau pour que monte de notre corps, de notre vie, le cri de joie que poussaient déjà ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ce chant de joie qui balaye sur son passage la tiédeur de nos jours, ce chant de joie qui précède nos paroles, qui traverse nos ombres, qui soulève nos pesanteurs et qui nous rassemble au-delà de nos différences. Tu nous donnes d'espérer à la mesure de tes promesses, toi qui fais toutes choses nouvelles dans le Christ. Tu nous donnes d'habiter la terre, tu nous donnes d'habiter le temps pour qu'ensemble nous puissions te louer. Amen.
Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant », le psaume 138 que nous chantons en entier.
Thank you.
Prenez place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ce verset. C'est le premier verset du chapitre 17 du livre de la Genèse. C'est même la fin du premier verset. L'Éternel parut à Abraham et lui dit « Je suis Dieu qui suffit. Marche devant moi et sois intègre. » Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession et nous nous présentons tels que nous sommes. Tu sais, peut-être n'avons-nous pas la force de nous redresser. Peut-être en rassemblant nos forces, les trouvons-nous en poussière. Et peut-être contemplons-nous, désolés, nos lambeaux, nos traces et nos ruines, et nous nous tenons au beau milieu, et c'est tout, sans élan, sans rien à offrir. Alors nous voici, avec notre épuisement et notre confusion, notre gâchis, nos trésors éventrés, notre vie qui ne tient plus ensemble. Si nous ne pouvons plus ouvrir les mains, nous apportons nos poings serrés, notre rage, notre famine. Et nous te laissons faire, notre Dieu. Nous te laissons être notre refuge. Et nous nous laissons gagner peu à peu par ton repos. Et dans ta lumière bienveillante, nous nous déposons, enfin. Amen.
Thank you.
Et je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon à travers ces paroles du livre du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'éloignera pas et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amis, frères et sœurs, relevez, réveillez, ressuscitez. Je vous invite à chanter au psaume 61. Écoute-moi quand je crie. C'est un psaume assez long, mais nous allons quand même le chanter en entier, les 6 strophes. Place. Nous prions. Éternel, accorde-nous ton esprit afin que nous discernions où aller quand nos chemins s'égarent. Et ce que nous pouvons faire quand nos forces s'épuisent, et comment nous tenir quand l'avenir est incertain. Nous avons besoin de souffle, de lumière, de ta parole. Amen. Je vous propose ce matin de méditer sur le psaume 84, dont vous avez trouvé le texte dans les recueils de cantiques. C'est un psaume dont un ou deux versets sont repris dans le texte de la cantate qui sera jouée ici cet après-midi. Mais bien sûr, je l'ai pris en entier, et comme vous avez remarqué, eh bien, c'est un culte tout en psaume, aussi bien chanté que médité. La traduction que vous trouvez sur les feuilles est d'après celle de la Nouvelle Bible Second, mais j'y ai apporté plusieurs modifications. Donc au psaume 84. Du chef de chœur sur la guittite, des fils de Corée, psaume. Comme elles sont chéries, tes demeures éternelles des armées d'étoiles. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées d'étoiles, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les humains dont la fierté est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée de la sécheresse, ils en font un point d'eau, et la pluie d'automne la couvre aussi d'étangs. Ils vont de vigueur en vigueur. Ils paraîtront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées d'étoiles, entends ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois, regarde le visage de l'humain qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne sa grâce, la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Éternel des armées d'étoiles, heureux l'humain qui met sa confiance en toi. Dans l'édition de la Nouvelle Bible Second, ce psaume a pour titre « Psaume des pèlerins arrivant à Jérusalem ». Mais qu'est-ce que ce pèlerinage ? Qu'est-ce que ce pèlerinage quand il n'est plus pour nous celui dont le titre rencontre un pèlerinage vers le temple de Jérusalem pour l'une des grandes fêtes religieuses juives à l'occasion de laquelle convergeait à Jérusalem la foule des croyants. Le temple est détruit depuis le 1er siècle et le judaïsme s'est redéfini selon les Écritures, selon la Bible hébraïque. Et celles et ceux qui suivent la voie de Jésus le Christ, la voie VOIE de l'Évangile, continuent cependant à lire les psaumes. Et nous pouvons y entendre, y comprendre, en recevoir un écho, un souffle vivifiant pour notre propre marche de chercheurs et de vivants. Pèlerinage toujours. Non vers un lieu déterminé et précis, mais pèlerinage sur un chemin où la quête devient celle d'une existence qui n'est pas errance, qui n'est pas perdition, qui qui n'est pas absurde. Une marche sur un chemin qui n'est pas déjà tracé, mais où chacun, chacune se trouve au bénéfice de celles et ceux qui ont déjà marché. Il ne s'agit plus d'arriver en un lieu, un temple, une église, une grotte, une source. Il s'agit d'avancer, d'une marche singulière qui se lie et se relie à d'autres marches singulières, une manière de faire route ensemble, dont nous sommes témoins ici ce matin comme assemblés, comme bien d'autres pèlerins sont assemblés en d'autres lieux qui ne sont pas des buts, mais des points d'étape partagés. C'est cela un culte aussi. Alors le psaume 84 n'est pas le plus connu des psaumes, comme peuvent l'être le psaume 23 ou le psaume 103. Mais pour un pèlerinage, un chemin d'existence, il déploie dans ces trois strophes quelques repères, quelques indications, et surtout une dimension indispensable de la marche, quelles que soient les circonstances que traverse l'existence. Et nous cheminerons donc dans ces trois strophes, l'une après l'autre. Et d'abord, bien sûr, la première. Les demeures de l'Éternel, les cours du temple, les autels, tous ces lieux situés, visualisés par le psalmiste, se rapportent à la possibilité d'une relation bénéfique et bienfaisante avec l'Éternel, une présence, une connexion, dirait-on aujourd'hui, dont l'effet est de rendre vivant. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. C'est de l'aspiration à la vie dont parle le psaume. Une aspiration à vivre qui est bien autre chose que le fait d'être vivant sur la terre, vivre autrement que de vie biologique. Cette aspiration à la vie qui ne se satisfait pas de la vie quand elle est retenue par sa conservation, contenue dans sa conservation, ce qui engage toujours dans des compétitions terribles. Mais cette aspiration à la vie qui, d'une intuition qu'il faut plus que soi pour que la vie s'épanouisse, ouvre à la quête de la transcendance qui donne sens. Cette aspiration à la vie porte à l'existence, c'est-à-dire à la vie qui entre dans une dynamique ne dépendant pas de ce que nous sommes, mais répondant à un appel, à une promesse, à un don venu d'ailleurs que de nous-mêmes. Aspirer à vivre, aspirer à être vivant, cela peut saisir l'humain de bien des manières et par bien des moyens. Peut-être une cantate de Bach ou un lever de soleil, peut-être un poème de René Char ou la fragilité d'un nouveau-né. Peut-être un tableau de Van Gogh ou la détresse d'un prochain. Peut-être aussi en rencontrant des vivants de cette vie vivante ou en laissant retentir en soi un texte biblique, un psaume ou un récit d'évangile comme celui d'une Samaritaine qui avait tellement soif qu'elle s'épuisait en cherchant un moyen d'être désaltérée. Aspirer à vivre, c'est dégager en soi cet espace de l'âme dans la profondeur de laquelle la transcendance vient réveiller la confiance et où le Christ semé en l'être vient grandir. Mais dans le même temps, cette aspiration à vivre, vivre soi-même, une existence véritable, relie aussi l'humain aux armées d'étoiles, comme aux petits passereaux, parce que la transcendance enveloppe les unes comme les autres. Elle ne serait pas transcendance si elle était réservée aux seuls humains. L'Éternel, correspond ici, dans le texte hébreu, au tétragramme. Le tétragramme, c'est quatre lettres par lesquelles Dieu se présente à Moïse lorsqu'il l'envoie pour faire sortir les Hébreux de l'esclavage. Quatre lettres qu'on prononce souvent Yahvé et qui rassemblent en quatre lettres tous les temps du verbe être. Raison pour laquelle le protestantisme, dès ses débuts, a choisi le terme éternel pour transcrire ce tétragramme. La transcendance échappe au temps. Et il est bien dommage que des traductions plus récentes, comme celle de la Nouvelle Bible Second, aient choisi le terme « Seigneur » tout en majuscule, parce que ce terme-là ouvre un champ de compréhension complètement différent dans le registre de la hiérarchie et de l'obéissance due. Donc, saisi par la transcendance, relié à l'éternel, l'humain l'est aussi à ce qui lui échappe complètement, les myriades d'étoiles du ciel. L'éternel désarmé, vous avez remarqué que j'ai oublié un éternel désarmé qu'on trouve dans la Bible Second, cette traduction quasiment unanime, n'est l'éternel d'aucune armée humaine. Mais l'éternel l'est, éternel, aussi bien pour les étoiles du ciel et l'immensité de l'univers que pour le petit passereau si commun, si vulnérable aux prédateurs, y compris humains. L'éternel des armées, c'est l'éternel des armées d'astres et d'étoiles. Et nous voici donc bien entourés par les étoiles, les passereaux, les hirondelles, parmi eux et partie prenante de l'ensemble, vivant dans cet ensemble. Dans l'aspiration à vivre, nous voici accordés, raccordés à l'éternel et à l'univers, et cela est générateur de louanges. La première des trois béatitudes du psaume: heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Cette béatitude trace ainsi la forme de la première réponse de l'humain, une forme de l'existence humaine, la louange, la reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude qui nous dispose dans le bon sens de la marche. La béatitude qui ouvre la deuxième strophe. Heureux les humains dont la fierté est en toi. Cette béatitude sur la fierté, eh bien, évoque une fierté, pas celle qui se dérive trop souvent en orgueil, avec ses funestes conséquences de déconsidération et d'écrasement d'autrui. Ce n'est pas la fierté qui conduit à se comparer à d'autres. C'est la fierté qui est la tranquille assurance d'être autorisé à exister. La fierté qui est la joie d'être reconnu. Ainsi, l'existence devient marche de la fierté d'être accepté. Une reconnaissance et une acceptation inconditionnelle dont Jésus de Nazareth n'a cessé de témoigner dans toutes ses rencontres, ce qui se dit aussi avec le terme de grâce qui confère à chacune de nos existences une qualité nouvelle et inaliénable. Lorsque la fierté est mise en Dieu, il n'est pas besoin de chercher des justifications qui apporteraient assurance, notoriété ou prestige. Lorsque nous mettons notre fierté en Dieu, elle ne dépend plus de nos qualités, elle ne diminue pas à cause de nos manques ou de nos faiblesses. Et c'est ainsi qu'est libérée en nous une capacité à transformer et à créer du bon, du bien, une fécondité de l'être pour les autres. Faire un point d'eau dans une vallée de sécheresse. Comme la pluie d'automne y fait apparaître des étangs qui irrigueront la terre et les cultures qui permettront les récoltes pour la nourriture de tous. Tourner vers l'éternel des armées d'étoiles, des passereaux et des hirondelles, l'aspiration à vivre nous tourne vers les autres et nous en sommes transformés. Ce n'est pas par nos compétences, par nos forces et par nos moyens que nous pouvons ainsi créer, mais à partir de l'aspiration à vivre qui a reçu de quoi être désaltérée en vie vivante et qui nous dispose ainsi au service, nous oriente en service. Les compétences, les forces, les moyens viennent ensuite comme des outils pour donner des formes à notre service, des formes à notre générosité, reflet de la générosité du Père qui fait pleuvoir et lever le soleil sur tous. Et sur ce chemin-là, la vigueur, c'est-à-dire l'énergie et la force d'avancer, la vigueur vient au fur et à mesure de la marche, d'étape en étape, de pas en pas. Elle ne s'use pas au long du chemin, elle est ressourcée au fil d'une existence véritablement existence offerte à elle-même. Elle est ressourcée dans le bonheur de la fierté d'être bénéficiaire de l'acquiescement de Dieu. Alors la troisième strophe du psaume déplie une détermination, un engagement adossé à la confession de foi du psalmiste en un Dieu bouclier, un Dieu soleil, un Dieu de grâce et de gloire. La métaphore du bouclier est certes une image guerrière que nous hésiterions à utiliser, et encore plus en ces temps de guerres multiples. Mais nous avons déjà relevé que l'Éternel des armées n'est pas l'Éternel des champs de bataille, mais l'Éternel des champs d'étoiles, Dieu de l'univers. Et le Dieu de Jésus-Christ ne prend pas parti pour un peuple contre un autre. Il prend le parti des humains aspirant à vivre, et même des humains dont l'aspiration à vivre ne vient pas à la conscience, et même des humains dont l'aspiration à vivre ne trouve pas de quoi le nommer. Mais nous éprouvons aussi que l'éternel, que l'existence ne va pas sans combat, des combats intérieurs entre ce qui en nous défait les liens d'humanité et des combats extérieurs contre les puissances destructrices des vivants. Dans un combat, un bouclier sert à protéger des coups. Cependant, nous savons bien que nous ne sommes pas préservés, que nous sommes aussi atteints par les coups du mal. Avec un bouclier, nous pouvons durer, poursuivre ces luttes pour l'humanité. Nous pouvons persévérer et nous pouvons vivre encore. Le Dieu bouclier n'est pas un Dieu qui empêche de souffrir. Il est le Dieu qui communique la possibilité de vivre encore. Alors oui, un jour en relation avec lui vaut mieux que 1000 jours coupés de lui, car c'est un jour de vie, un jour de densité, de plénitude de vie, un jour qui encourage pour d'autres jours où l'on se trouvera démuni, désemparé, rempli de doutes ou d'obscurité. Et c'est grâce à ce jour, mais il n'est pas unique dans le cours d'une existence, c'est grâce à ce jour que nous pouvons, comme le psalmiste, choisir de ne pas résider sous les tentes de la méchanceté. Le choisir, le décider et se tenir à ce choix, quand bien même la méchanceté pousse parfois sa griffe en nous, quand bien même elle hurle autour de nous. La méchanceté, c'est ce qui empiète sur autrui, lui marche dessus, l'écrase, même un peu. C'est ce qui empêche l'autre de respirer, de parler, de se mouvoir. La méchanceté, c'est ce qui restreint la place et la liberté d'autrui et lui impose un malheur. Et cependant, ce faisant, celui qui se laisse aller à la méchanceté se fait également tort à lui-même, à sa propre humanité. Mais nous pouvons renoncer à la méchanceté. Nous pouvons avoir prise sur le mal que nous pourrions faire, que nous sommes parfois tentés de faire, et ne pas le faire. L'aspiration à la vie vivante n'est pas une aspiration égoïste, repliée sur soi. Elle relie de ces liens qui font vivre autrui. Et nous avons été quelques-uns, la semaine passée, il y a 3 jours, à lire et relire un extrait d'une des lettres de Hetty Hillsum, une jeune femme juive enfermée dans un camp de transit en Hollande qui sera déportée à Auschwitz où elle mourra. Et elle écrivait à des amis en décembre 1942. Je sais que ceux qui haïssent ont de bonnes raisons à cela. Mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile, la plus rebattue? Au camp, j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être, mais tenace, que si cette terre redevient un jour un tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de la ville de Corinthe au 13e chapitre de sa première lettre. Renoncer à la méchanceté, c'est une expression de liberté, la liberté à laquelle nous sommes tous appelés et conduits par l'Évangile du Christ. Liberté par rapport à soi, par rapport à ses propres pulsions, ses propres illusions et ses fantasmes. Celui ou celle qui entre dans cette démarche intérieure et spirituelle de renoncer à la méchanceté devient capable de transcender l'étroitesse du regard en reconnaissance d'autrui, la crispation identitaire en accueil, l'idéologie en dynamique d'existence reliée et l'esprit de clan en élan d'espérance. Et cela fait partie de la voie de l'intégrité. Une autre manière de dire la transformation de celles et ceux dont l'aspiration à vivre est désaltérée en l'Éternel, dans le Dieu de Jésus-Christ qui donne à la Samaritaine l'eau de la vie qui jaillit en source vive. L'intégrité, c'est d'être complété, car nous manquons, et c'est pourquoi nous aspirons. C'est pourquoi nous avons soif. Et ce qui nous complète, ce n'est pas quelque chose que nous pourrions gagner ou acquérir ou fabriquer. L'intégrité n'est pas le résultat d'un effort ni d'une performance. L'intégrité advient dans la relation à Dieu, par la relation à Dieu, dans la marche devant Dieu, ainsi qu'il en est pour Abraham au livre de la Genèse, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Ce qui nous complète ne vient pas de nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Notre intégrité tient à ce que nous sommes reliés à la transcendance, par la grâce en laquelle l'aspiration à vivre devient foi, ouverture à la transcendance, relation à l'Éternel, confiance au Dieu de Jésus-Christ. Et nous recevons les biens que Dieu ne refuse pas, la grâce et la gloire. La grâce du oui divin posé sur chacun de nous et la gloire, c'est-à-dire le poids, la densité d'être qui ne brille pas de 1000 feux, mais nous maintient en humain. Dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Jean pose l'amour comme étant la gloire de Dieu en Jésus-Christ et l'amour mutuel comme signe des disciples du Christ, l'amour qui rend intègre. La troisième béatitude, heureux l'humain qui met sa confiance en toi, n'est pas une conclusion. Heureux, c'est être en marche, en mouvement, en avancée, en dynamique, ainsi que le traduit André Chouraki. Et c'est être vivant, ainsi que l'exprime le professeur Cuvillier. Et vivant, nous pouvons relire le psaume, cheminer avec les pèlerins des temps anciens et avec celles et ceux qui sont nos contemporains. Au fil des mots, comme au long des jours, aspirant à vivre et combler, intègre, compléter de la grâce de Dieu. Amen. Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever, à vous associer à celle que va dire Valentin, mais que vous trouvez aussi sur les feuilles de l'autre côté du texte du psaume 84.
Nous croyons au Dieu de l'humanité, de l'univers tiré du chaos, mouvement et réflexion, joie de l'existence. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de l'humain, l'humain image de Dieu et sa ressemblance, l'humain esprit et poussière, misère et orgueil, Abel et Caïn, meurtre et sang versé, écoulement des siècles, tumulte des nations. Dieu de l'humain, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu des muets et des insignifiants, des bâtisseurs de bâtiments jamais finis, Dieu d'humains qui, comme nous, espère la paix sur la terre. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de Jésus, le Fils, l'un d'entre nous, proche de nous et présent, accueillant, guérissant, libérant, ressuscitant, crucifié sur les croix du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu de Jésus-Christ, Dieu de l'Esprit, nous nous tournons vers toi. Amen.
Des annonces à partager pour aujourd'hui, bien sûr, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, avec une petite demande, merci de veiller à la date de péremption des produits qui doit être, si possible, de plusieurs mois, parce qu'ils ne sont pas distribués immédiatement dans l'organisation de l'épicerie solidaire, donc si les dates limites de consommation qui sont impérativement respectées sont trop proches, eh bien les produits risquent de ne pas pouvoir être donnés. Après le culte, le conseil d'administration de l'association cultuelle se réunit pour préparer la prochaine assemblée générale. Et puis, cet après-midi, donc à 17h30, ici, une cantate, la cantate BWV 79, une cantate du jour de la Réformation, qui est organisée ce mois-ci par Frédéric Rivoal. J'avais annoncé dimanche dernier que Freddy Eichelberger serait là. Malheureusement, il n'a pas pu prendre de train pour venir. Enfin, il y a eu des problèmes de transport dans le sud et il n'a pas pu venir. À la fin du culte, vous trouverez aussi des confitures, puisque notre ami Vincent Fabre en a rapporté une provision. Donc, vous pourrez lui en acheter. La semaine prochaine, il y aura mardi 7 une réunion du bureau du conseil presbytéral. À 18h30, j'assurerai, comme tous les mois, un partage biblique à l'Escale sur le thème de la fille de Jephté. On fait une petite série sur les femmes de la Bible. Et puis ensuite, en fin de journée, il y aura une réunion des moniteurs d'école biblique pour préparer la suite de l'année et même commencer à penser à Noël. Jeudi 9, à 12h30, la pause spirituelle, comme tous les jeudis. Et puis, le soir, le ciné-club.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, le cinéma du foyer de l'âme se poursuit. Et nous sommes dans un cycle avant le christianisme. Et donc, le mois dernier, nous avions l'Égypte antique. Et là, ce sera la mythologie grecque avec Jason et les Argonautes. Vous vous souvenez peut-être du poème « C'est-tu là qui conquis la toison ?» Donc, c'est l'histoire de Jason et de ses aventures pour aller récupérer la toison d'or. C'est un film britannique de 1961. De Don Shaffer et Todd Armstrong, vous ne connaissez pas ces noms-là, je suppose. Mais le principal artisan de ce film, c'est Ray Harryhausen, qui est un spécialiste des effets spéciaux, des trucages. C'est pas du numérique, hein. C'est beaucoup plus poétique et beaucoup plus inventif que du numérique. Et là, il s'est déchaîné dans des créatures particulièrement pittoresque. Autre intérêt de ce film, c'est que nous avons une vision assez ironique de la divinité, des divinités grecques. On les voit, ils sont au sommet de l'Olympe en train de regarder ce qui se passe en bas, et ils interviennent ou pas. Théoriquement, c'est totalement dépassé, mais vous savez que dans certaines branches plus traditionnalistes des monothéismes, il y en a encore qui croient ça. Voilà, mais là, c'est vu avec ironie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce qui est pittoresque, c'est que c'est un film anglais. Les Anglais n'en sont pas habitués à faire des péplums, mais peut-être que, comme les Italiens imitaient les films d'épouvante anglais, ceux-ci se sont dit on va faire un péplum. Voilà, donc c'est jeudi prochain, 19h45, précédé d'un encas à partager à 19h. Venez nombreux. Merci.
Après jeudi, vendredi 10 à 19h30, le groupe Théo et Psycho poursuit sa lecture du livre d'Elian Cuvillier, Jean-Daniel Causse, Traversée du christianisme. Et puis samedi 11 au matin, c'est le groupe Ciel et Terre qui se retrouvera aussi pour un nouveau partage à 10h30 dans la salle du deuxième. Dimanche 12, le culte à 10h30 sera assuré par Valérie Laubry. Et puis, il sera suivi par le repas des JMJ, le repas mensuel des jeunes et moins jeunes, auxquels donc tous sont invités. Vous pouvez apporter quelque chose à partager, et tout est mis en commun. Et lors de ce repas des JMJ, il y aura un partage, non pas de lecture, comme on le fait souvent, mais un partage de musique. Donc, venez avec votre musique préférée. Alors, on ne pourra pas tout écouter en entier, hein, surtout si vous arrivez avec la Passion selon saint Matthieu, mais peut-être quelques secondes, un petit extrait, et puis surtout, chacun pourra dire pourquoi cette musique lui tient tant au cœur. Voilà, et puis on n'est pas obligé non plus de participer si on veut juste écouter les autres. Dimanche prochain, il y aura aussi école biblique et pré-caté pour les enfants et les jeunes. Il faut que je dise le week-end prochain, de vendredi soir, fin d'après-midi à dimanche après-midi, ce sera le synode régional de l'Église protestante unie en région parisienne. Un synode qui rassemble donc les pasteurs, les délégués de toutes les paroisses et puis aussi tous les pasteurs qui ne sont pas en paroisse. Et nous travaillerons cette année sur le thème des ministères, un thème qui est d'abord travaillé en synode régional avant d'être travaillé au synode national 2024. Donc ce sera un week-end très concentré, très condensé dans beaucoup de réflexions pour avancer un peu sur ce thème et peut-être envisager l'avenir de l'Église protestante unie. Et je signale aussi que il y aura c'est, je pense, la première fois de manière aussi longue, des sessions communes entre le synode régional réformé et le synode régional luthérien. Puisque nous avons beau être une église unie, il y a une région réformée et une inspection ecclésiastique luthérienne dans la région parisienne. Donc là, nous nous rassemblerons pour plusieurs temps de travail. Est-ce qu'il y a... Valentin. Anthony.
Oui, le vendredi 17 novembre à 19h, nous organisons avec le groupe Foi et LGBT, qui est un groupe parisien de personnes concernées par les questions LGBTQIA+, un culte de souvenirs trans. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un culte organisé dans le cadre de la Journée internationale du souvenir trans, qui commémore toutes les personnes décédées dans l'année, victimes de discrimination, donc des personnes transgenres, qui ont été victimes de meurtres, de suicides ou de négligences médicales. C'est une journée dont j'imagine la plupart vous n'avez jamais entendu parler, que les personnes transgenres vivent dans la solitude et l'indifférence, et nous pensons que cette solitude et cette indifférence sont les raisons principales des décès de ces personnes-là. Donc vous êtes chaleureusement invités toutes et tous à venir à ce culte au temple Montparnasse-Plaisance le 17 à 19h. Et si certains d'entre vous se disent « je n'y comprends pas grand-chose à toutes ces lettres, à toutes ces questions », j'ai envie de vous répondre et que vous ayez bien en tête qu'on n'a pas besoin de comprendre parfaitement l'autre pour l'aimer. Donc venez témoigner de votre amour et ce sera déjà formidable pour nos frères et sœurs concernés. Merci.
Eh ben alors, ben alors, ben alors, ben venez.
Pour la fête de l'amitié, qui a lieu le dernier week-end de novembre. Donc le dernier week-end de novembre, plus précisément le samedi 25, il y aura un buffet. Et avec Nicole Mulot-Calvino, qui m'aide à organiser ce buffet, on vous sollicite pour apporter des produits qui se mangent ou qui se boivent et nous les apporter. C'est pour ça qu'on anticipe en avance. Donc, le 24, la veille ou le samedi au matin. Et Isabelle, qui est très optimiste, me dit « Ne t'inquiète pas, tout arrive au dernier moment. » Comme je suis pragmatique, j'ai fait une liste que je vais déposer à l'entrée du temple. Et vous pourrez mettre... Il y a des idées déjà préparées, mais vous pourrez mettre vos noms et vos intentions de participation. Pour l'instant, on a quelques quiches et terrines, mais si on veut faire un beau buffet, on a besoin de votre participation. Donc merci d'avance à tous.
Patrick a raison, mais je ne suis pas optimiste. C'est juste un acte de confiance, la fête de l'amitié. Et chaque année, on se dit « bon sang, comment ça va marcher ?» Eh bien, ça marche. Mais évidemment, vous êtes tous concernés. Et donc aujourd'hui, je vous signale que j'ai apporté des invitations qui sont au fond, là-bas, et avec le déroulé de la fête, les comptoirs et les animations samedi et dimanche. Cette année, les animations se développent. Il y a des paroisses où les fêtes paroissiales se réduisent. Nous, c'est l'inverse. Encore un acte de confiance. Voilà, écoutez, profitons-en. Et bon dimanche. Merci.
Et une dernière annonce pour ceux qui n'ont pas encore pris la souscription pour la réédition du livre de Raphaël Picon, Tous théologiens. C'est encore temps de le faire. Les ouvrages devraient arriver la semaine prochaine ou plus tard la semaine suivante. Et donc, ceux qui ont pris la souscription pourront me les réclamer. Je les avertirai lorsqu'il sera arrivé. Le prix de l'ouvrage en souscription est de 12 euros. Alors, nous allons quand même le chanter, le psaume 84, qui est fort beau. Le chanter pendant le temps de l'offrande, à laquelle je vous invite, mais dans la joie et la liberté surtout. Donc nous pouvons nous lever et chanter au psaume 84, eh bien le psaume en entier, « Dans ta maison, je suis heureux ».
Thank you.
Asseyez-vous. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel, nous te rendons grâce pour la vie qui nous anime, pour celles et ceux qui rendent témoignage de ta grâce et de ta gloire, pour les armées des étoiles et les passereaux. Éternel, nous voulons marcher avec toi, nous relier à toi qui nous relie aux autres, être désaltérés de ta bonté et porteurs de bénédictions. Merci pour les hommes et les femmes intègres que nous rencontrons. Nous voulons renoncer à la méchanceté, ne pas ajouter de mal au malheur du monde, autant que cela se peut. Merci pour les hommes et les femmes qui vivent et agissent ainsi. Et nous recueillons dans notre prière celles et ceux qui sont assaillis intérieurement et dans leur quotidien par la violence et par la misère, blessés et endeuillés, captifs et désespérés, fuyants et affamés, partie prenante de gré ou de force dans les affrontements humains. Nous prions pour celles et ceux qui sont impuissants et subissent, pour celles et ceux qui veulent se désarmer, pour celles et ceux qui aspirent simplement à vivre sur la terre des vivants. Éternel, la liste est trop longue, des lieux où il est difficile, voire impossible de vivre. Du coin de la rue à la Palestine et à Israël, de la Syrie à la Somalie, de l'Ukraine et de la Russie à la Birmanie. Notre Dieu, nous prions, nous nous relions par Jésus le Christ, notre frère, qui nous a donné des mots et du souffle pour prier. Et nous pouvons dire ensemble, à voix haute ou dans le secret du cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et comme exhortation, en reprise d'écho du psaume 84, un très ancien poème chrétien composé autour de l'an 100, certainement dans une région du nord de l'actuelle Syrie. Un extrait de l'ode 7 des Odes de Salomon. Ma joie, c'est le Seigneur, et mon élan me porte vers lui. Belle est ma route vers le Seigneur, car il est mon soutien. Il s'est fait connaître lui-même par sa libéralité, Sa bienveillance a rapetissé pour moi sa grandeur. Il s'est fait semblable à moi pour que je le revête. Je n'ai pas été effrayée en le voyant, car il est ma miséricorde. Il a pris ma nature pour que je le comprenne, et ma figure pour que je ne me détourne pas de lui. Il a ouvert une route à la connaissance. Il a posé sur elle les empreintes de la sagesse. Amis, frères et sœurs, l'amour de Dieu vous entoure, la force de Dieu vous soutient et la paix de Dieu emplit vos cœurs. Amis, frères et sœurs, vous êtes bénis. Allez en paix. Amen.